depende na chance que você está com. A partir du verset 11, regardez ce texte à partir du verset 11. C'est un texte que j'utilise régulièrement avec mes étudiants. Darius l'a entendu à maintes reprises. Mais lui doit être bien formé pour ensuite former les autres dans les églises. Donc il est nécessaire que ce passage lui soit présenté à plusieurs reprises. Et il a donné, Jésus, le Christ, il a donné les uns comme apôtres. Donc nous avons vu les apôtres, à ceux que Jésus-Christ a choisis, qui étaient témoins oculaires de sa mort et de sa résurrection. Les autres comme prophètes, ils ont parlé au nom de Dieu. Les autres comme évangélistes, et on va essayer d'expliquer cela, parce qu'aujourd'hui le mot évangéliste est utilisé à toutes les sauces. Les autres comme pasteurs et docteurs. Et notez, Dieu a donné ces hommes à l'Église pour le perfectionnement des saints, des chrétiens, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, foi objective, la parole et doctrine, et de la connaissance du Fils de Dieu, connaissance intime de Jésus-Christ, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire mûr, stable, adulte. D'ailleurs, regardez ce qui suit, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, et là ce sont des nourrissons, des bébés, hein, le terme grec, répose, des bébés, afin que nous ne soyons plus des bébés flottants, emportés à tout vent de doctrine, côte da Vinci ou je ne sais pas quoi, là, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité c'est Jésus-Christ, la vérité c'est la parole de Dieu, mais que professant la vérité, dans l'amour, nous croissions, nous nous développions, nous grandissions, à tous égards, dans tous les domaines, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps de Christ, bien coordonné, formant un solide assemblage, attire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors l'Église, mes amis, l'Église n'a pas été conçue par le Seigneur Jésus-Christ pour demeurer dans l'infantilisme, dans la puérilité, ou dans, je dirais, une vulnérabilité aux influences. Le Seigneur ne veut pas que les chrétiens qui constituent son Église, son corps, soient dépendants, assistés, et manipulable à souhait. Bien au contraire, Christ a encore donné aux chrétiens de l'Église et des Églises locales tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils deviennent, et leur Église devienne, adulte, solide, conquérante, active, militante dans la transmission des vérités scripturaires, mais de le faire avec amour, à la manière des pharisiens. Donc le texte que nous avons lu est à la base de ces rencontres que nous avons une fois par an, le jour de l'Ascension, la vérité dans l'amour. Chaque fois que nous abordons un thème, qui est toujours un thème un peu difficile, pas toujours traité, et qui a besoin d'être présenté, mais présenté non pas avec vociférations, avec véhémence ou que sais-je encore, non, avec beaucoup d'amour, parce que le but que nous recherchons, c'est édifier. Édifier, c'est pas de nous estimer supérieur, hein, c'est édifier, c'est d'encourager les autres. Alors trop souvent, on m'a encore injustement taxé d'anti-américanisme, ce qui est vraiment une insulte, hein, alors que je ne faisais que défendre des principes bibliques qui relèvent du Nouveau Testament, de l'implantation, du développement d'églises locales. Alors, on va utiliser le mot autochtone. Bon, autochtone, c'est un mot un petit peu compliqué. Mais l'autochtone ou indigène sert à décrire ce qui est propre à un pays ou à une région. Donc, qui est-ce qui est né à Rouen, là ? Rouen. Personne n'est né à Rouen. Les Normands, vous êtes nés où, alors ?
Au Brésil.
Ah oui, ça tombe sous le sens, hein. Ça tombe sous le sens. sens. Bon, je vais marcher en terrain plus sûr, là. Ah, Alex, tu es né où?
À Thionville.
À Thionville, voilà un autochtone de Lorraine. Hein? Ah, alors là, j'ai peur, encore une fois.
Vernon.
Ben, voilà, voilà. Une autochtone de Normandie. Elle est née, elle est du pays. Elle appartient à un pays autochtone et indigène. Sont des termes similaires. Celui-là vient évidemment du grec, l'autre viendrait plutôt du latin. Alors, évidemment, ces termes-là sont un petit peu gênants. Autochtone, on a toujours, et indigène, on a toujours l'impression qu'on parle de peuplade, allez, arriéré quelque part. Or, personne n'est arriéré. Hein. Quand il s'agit d'êtres humains, je ne les utilise certainement pas dans le sens restreint où ils ne signifieraient plus que originaire du pays. Je ne peux pas même utiliser ce terme-là. Quand je vais parler d'églises autochtones, de chrétiens autochtones ou indigènes, je ne vais pas dire que ce sont des gens qui sont nés à Vernon, des gens qui sont nés au Brésil, des gens qui sont nés à Thionville. Je ne veux pas l'utiliser dans ce sens-là, parce que, bon, déjà, nous pouvons nous enrichir d'une formidable histoire d'accueil d'immigrés, hein, qui se sont parfaitement bien intégrés dans notre pays, et nous prions pour que tout le monde puisse bien s'intégrer. Alors, j'utilise le terme autochtone et indigène pour parler de ce qui est naturel à un pays, de ce qui est normal dans un pays, de ce qui fait partie de, je dirais, la culture, l'environnement de ce pays. Et ça peut intégrer des gens qui sont du Brésil, ou d'Arménie, ou de je ne sais où, là. Vous êtes né où, frère? Vous, frère?
Ah, oui. Mes lunettes ne fonctionnent plus bien, là. Hein. Frère.
En Chine,
voilà. Et vous êtes né aux Antilles. C'est pour ça que vous êtes gentil.
Donc, j'utilise le terme indigène et autochtone pour parler de ce qui est devenu naturel d'un pays. Quand vous vivez dans un pays, vous êtes en sorte des autochtones de ce pays. Et donc, je trouve assez bête qu'on me taxe d'anti-américanisme parce que j'insiste pour que les églises en France soient françaises, hein, et qu'une coloration française, européenne, en tous les cas, ne soit pas en conflit avec cela. Anti-américanisme, c'est aussi, c'est vraiment ma reconnaissance. Nos amis américains, hein, est indiscutable pour ceux qui me connaissent. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Avant d'aller plus loin, je veux aussi, parce qu'on va discuter beaucoup d'église, d'évangélistes, de missionnaires, etc. Avant d'aller plus loin, je vais émettre des réserves sur l'utilisation du terme missionnaire. D'abord, le terme missionnaire n'est pas dans la Bible. Sauf dans les titres. Mais les titres ont été ajoutés par la suite. Donc le terme missionnaire ne se trouve pas dans la Bible. Le terme missionnaire a une connotation maintenant qui est gênante. Le missionnaire, dans l'esprit de beaucoup de gens, hein, si vous dites « moi je suis missionnaire en France », ils disent « mais ils n'ont pas besoin de missionnaires là-bas. Ils ont des hôpitaux, ils ont des écoles, ils savent s'habiller, plus ou moins. Hein. » mais les gens pensent que les missionnaires, ce sont des personnes qui amènent une culture. Nous n'utilisons pas le terme missionnaire dans ce sens-là. On n'utilise pas le terme missionnaire. Il faudrait le barrer et le remplacer par le terme approprié d'évangéliste. L'évangéliste est celui qui va dans une région pour annoncer la parole de Dieu. Peu ou personne y est allé. Et eux ont l'intention de glorifier Dieu en proclamant l'évangile, en amenant les convertis à s'intégrer dans une église locale, alors par le baptême, et puis le respect de la parole de Dieu. Et je vais essayer de m'efforcer le plus possible quand je parle de quelqu'un qui est engagé dans cette vocation. Je vais utiliser le terme évangéliste. Le terme évangéliste, j'en ai discuté là encore il y a quelques jours avec mes amis, Roosevelt et Annie. Le terme évangéliste est utilisé pour décrire un peu n'importe quoi. On parle des évangélistes quand on parle de groupes, justement au Brésil, là-bas, hein. Ils les appellent évangélistes, hein, ou je ne sais pas quoi, là. Et ils parlent de groupes, parfois très extrémistes, et d'autres qui sont très équilibrés, mais tout le monde est mis dans le même sac. Et le terme évangéliste ne s'applique pas aux... La vocation évangéliste ne s'applique pas à tous les hommes, bien que nous soyons témoins de Jésus-Christ, attention, hein. Mais s'applique à ceux qui conformément à la volonté de Jésus-Christ, sont là pour perfectionner les saints, les aider, les préparer à accomplir le ministère. Ma proposition tout au long de la journée sera que nous honorions Dieu, que nous honorions Dieu, que nous glorifions Dieu en suivant des principes qui visent à la responsabilisation des chrétiens, à la responsabilisation des gens qui appartiennent à une église locale, pour certains Rouen, pour d'autres Vernon, pour d'autres Thionville, pour d'autres encore Mantes, et etc. C'est cette responsabilisation selon Dieu, selon Christ dont on va parler. Alors, pourquoi faudrait-il, dans tout effort d'implantation d'une église, je sais que notre frère est en train de faire cela à Amiens, pourquoi est-ce que dans tout effort d'évangélisation d'une contrée, d'une région, faudrait-il adopter et soutenir une démarche autochtone indigène? Le mot « national » est un petit peu gênant aussi. Mais j'utiliserai de temps en temps le mot « nationaux » pour parler de la même chose. Et quand je dis « nationaux », ça ne veut pas dire français, c'est-à-dire ceux qui habitent dans le pays. Ils font partie de la communauté. Okay? Vous êtes en droit de vous demander pourquoi est-ce que dans un effort d'évangélisation, d'une ville, d'une région, d'un pays, pourquoi faudrait-il adopter et soutenir une démarche indigène, autochtone? Plus l'Esprit de Dieu, les instructions bibliques nous établir le bien fondé de cela. Plusieurs raisons. La première, c'est que la démarche indigène ou autochtone est la plus naturelle. Elle correspond à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que, au départ, il y a des églises. Alors, ces églises se trouvent en France, et elles veulent démarrer d'autres églises. Ces églises se trouvent en Angleterre, et elles cherchent à démarrer d'autres églises dans des pays en Afrique ou ailleurs. Et les États-Unis sont très engagés dans cet effort de mission. Il y a des églises qui ont à cœur d'obéir à l'ordre de mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, cet ordre de mission. La plupart d'entre vous, vous le connaissez bien, c'est Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc ça, c'est l'ordre de mission de Jésus-Christ. Le seul ordre qu'il est donné après sa résurrection. Entre la résurrection et l'ascension, que nous célébrons aujourd'hui, eh bien, le Seigneur a donné un message essentiel à ses disciples, c'est « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Alors, des églises s'unissent pour soutenir dans la prière, pour soutenir matériellement, pour apporter une aide logistique à des évangélistes, ce que certains appellent à tort la missionnaire, à des évangélistes, dont la tâche consistera dans un premier temps à proclamer l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Quiconque croit, se repent et croit, reçoit de lui le don gratuit de la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile. Jésus-Christ a accompli cela pour nous sauver. Donc, dans un premier temps, l'évangéliste proclame la bonne nouvelle. Et puis, par la suite, il va regrouper les convertis au sein de l'église locale pour qu'elle se développe elle-même. Alors, quand les églises envoient des évangélistes, elles n'envoient pas n'importe quel homme, quel serviteur. Elles font très attention. Elles envoient des serviteurs dont on a reconnu à la fois la saine doctrine et puis reconnu aussi la fidélité. Alors, vous avez un cas classique dans les Écritures, si vous le regardez dans Actes chapitre 13 et 3 premiers versets, Actes chapitre 13 et 3 premiers versets, vous avez des hommes là, vous avez des hommes qui sont envoyés comme évangélistes. Actes chapitre 13, verset 1er jusqu'à, on va dire jusqu'à verset 5 pour voir ce qu'ils ont accompli, ces braves. Actes chapitre 13, alors verset 1er jusqu'à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche, alors là on est en train de parler d'Antioche de Syrie, au nord de Jérusalem, bien au nord de Jérusalem, Antioche de Syrie, pas Antioche de Pisidie qui se trouve en Turquie aujourd'hui. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, donc ceux qui enseignaient la doctrine, pas les médecins. Barnabas, région appelée Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, après avoir jeûné et prié, ils, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour elle. Alors qu'est-ce que nous observons simplement dans ce texte? C'est que il y a des hommes fidèles qui sont déjà en train de servir dans le sein de leur église locale. Et Dieu dit, mettez-moi à part ces hommes-là pour une tâche que je vais leur confier, pour une mission que je vais leur confier. C'est peut-être de là que vient le terme missionnaire. Je vais leur confier une mission, alors mettez-les-moi à part, et on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui dit, qui met les hommes à part, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige les serviteurs. Et l'Église, en fait, approuve, entérine, et envoie ses frères avec des prières et avec un soutien. Donc, ils ont, verset 3, ils ont jeûné, ils ont prié, ils leur ont imposé les mains. Imposer les mains, c'est reconnaître, c'est formaliser quelque chose. L'imposition des mains, c'est reconnaître et formaliser quelque chose. Lorsque mon église locale a entériné mon appel au ministère, il y a eu un conseil de consécration, il y a eu un conseil où on a examiné ma doctrine de long en large, et puis ensuite, l'Église, par le truchement de ses pasteurs, m'a imposé les mains et m'a envoyé pour établir des églises locales, pour prêcher l'Évangile et établir des églises locales. C'est ce que fait Antioche ici pour Saul et Barnabas. Et Barnabas, donc, s'embarquer pour l'île de Chypre, et après Chypre, ils vont aller aussi vers le nord, en Turquie, et ils vont aller jusqu'à Lystre, Derbe, Icône, etc. Donc, les évangélistes vont proclamer l'Évangile. Il ne s'agit pas pour les évangélistes de s'entasser les uns sur les autres, pour s'adresser à des gens qui connaissent déjà la parole. Il ne s'agit pas d'aller là où la parole de Dieu a déjà été annoncée. Et je parle de la génération dans laquelle on se trouve, évidemment. On ne peut pas dire la France a entendu l'Évangile en 1215, donc elle n'a plus besoin d'entendre l'Évangile. Mais il s'agit pour nous d'annoncer l'Évangile là où elle est encore ignorée. Et regardons la stratégie de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 15. On va regarder quelques versets, là, les versets 18 jusqu'à 21, parce qu'ils sont très instructifs pour voir comment cet évangéliste qui s'appelait Paul a perçu et accompli son ministère. Si vous êtes avec moi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15 et à partir du verset 18. Chapitre 15 et à partir du verset 18. Verset 17, il dit « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et des pays voisins, donc on parle de la Syrie, du Liban, de Chypre, etc. Depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie. Illyrie, c'est aujourd'hui, je suppose que c'est l'ex-Yougoslavie. Illyrie. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Verset 20. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, « ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, ceux qui n'en avaient point entendu parler verront. Donc le principe est suivant. L'évangéliste doit se rendre là où les gens n'ont pas entendu l'évangile. Ils ne vont pas s'agglutiner les uns auprès des autres en formant une espèce de complexe missionnaire. Leur objectif, c'est de s'appuyer totalement sur Christ, c'est lui qui accomplit les choses. Alors, l'objectif, évidemment, subséquent des évangélistes, consiste, comme je l'ai dit déjà maintenant, à au moins une ou deux reprises, mais je le fais pour le bénéfice de ceux qui sont arrivés là, l'objectif des évangélistes, après avoir proclamé la vérité et vu des conversions par la grâce de Dieu, c'est d'intégrer tous ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, au sein d'églises bibliques. D'églises bibliques. Personne n'est là pour récupérer pour une chapelle quelconque. Les églises bibliques, les églises du Seigneur, qui sont le reflet de sa volonté, le reflet de sa personne. Et pour ce faire, le baptême par immersion est administré aux convertis du Seigneur pour le faire entrer visiblement dans un corps local, alors qu'il est déjà entré dans le corps du Christ par le baptême de l'Esprit. Nous avons tous été baptisés d'un seul Esprit pour former un seul corps. C'est clair, c'est net, les Écritures le disent, donc la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Le baptême de l'Esprit n'a rien à voir avec le parler en langue ou que sais-je encore, comme certains le prétendent, et une espèce de matraquage constant. Les Écritures là-dessus sont limpides. Mais l'objectif d'un évangéliste, c'est que les chrétiens puissent se rencontrer, agir ensemble au sein d'églises, églises ecclésia, les gens qui sont appelés hors de la société pour former l'église. Et donc, ensuite, mettre en pratique, c'est très important ça. Le dernier point là, que Jésus-Christ a abordé dans son ordre de mission, c'était qu'ils apprennent, on leur enseigne à observer. Quelquefois, on se contente de dire j'enseigne, mais il faut qu'il y ait un suivi. On enseigne à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. C'est-à-dire qu'on va encourager et montrer par l'exemple ce qui doit être fait. Alors, la démarche autochtone, indigène, c'est ce qui est propre à une région, à un pays. Cette démarche-là correspond aussi à une loi humaine. Non seulement ça correspond à la volonté de Dieu, vous allez établir des églises là où vous aurez proclamé la parole et des gens se sont reconvertis et ce seront des gens qui parleront le portugais au Brésil, ou l'arménien en Arménie, le français en France, etc. Mais ce sont des églises qui partagent la vie du pays. Ce ne sont pas des églises américaines au Brésil, ce ne sont pas des églises françaises au Cameroun. Ce sont des églises qui partagent la vie du pays. Et la démarche autochtone correspond à une loi, je dirais, humaine qui est fondamentale. C'est que les églises partagent la vie du pays dans lequel elles se développent. Ce ne sont pas des espèces de micro-cultures transplantées de l'étranger vers nos pays. Et on s'épargne ainsi toutes les gênes et toutes les frictions qui sont inhérentes à ce genre de greffe. Par la grâce de Dieu, des églises autochtones, indigènes, nationales, si vous voulez, trouve en elle-même, évidemment, dans la puissance et la grâce de Dieu, dans la grâce du Christ, trouve en elle-même la capacité de s'administrer, elles n'ont pas besoin d'un pape ailleurs, de s'administrer, de soutenir leur propre action, alors soutenir dans leur prière, soutenir dans, financièrement, mais aussi elles ont la capacité de se reproduire, c'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas d'avoir une petite église locale à Vernon, à Nantes, ou à Rouen, ou ailleurs, elles ont la volonté d'aller au-delà, et d'établir des églises au-delà. Le Seigneur, dans la période de 40 jours, là, entre sa résurrection et l'Assomption, que nous célébrons aujourd'hui, le Seigneur a donné l'ordre de mission, Et puis, s'étant adressé à ses disciples, il leur a fait comprendre qu'il ne les envoyait pas au casse-pipe, là, sans force, sans rien. Il dit, vous recevrez une puissance, Actes chapitre 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, donc 10 jours après l'ascension. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, vous parlerez en mon nom. Vous serez mes témoins, ici à Jérusalem, dans toute la Judée, on élargit un peu là, dans la Samarie, et là c'était une étape, assez, c'était un pas de géant là, pour les Juifs d'aller vers la Samarie, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'annonce de l'Évangile, le témoignage devait se répandre à travers tout le monde connu d'alors. Je voudrais, encore une fois, je persiste, je signe, hein, chercher à développer une église française au Cameroun, ou une église américaine au Cameroun, est aussi grotesque que de vouloir imposer la culture de l'orange aux pays scandinaves, à la Suède et à la Norvège. C'est aussi grotesque que cela. Les Camerounais, je prends l'exemple des Camerounais, ne se sentiront pas à l'aise dans les façons de faire qui appartiennent à d'autres cultures et à d'autres sensibilités que la leur. On a le même évangile, on a le même Seigneur, on a la même parole, on a la même puissance venant du Saint-Esprit. Ouais, on a aussi nos particularités, n'est-ce pas? Nos sensibilités qui viennent des pays où nous nous trouvons. Je vous donne un exemple presque comique. Je ne sais pas si je l'ai perçu comme ça quand c'est arrivé. Il y a quelques années de cela, quand j'étais encore à Thionville, et ne dites pas M. Fox parce que c'est pas lui, quand j'étais encore à Thionville, j'ai des collègues qui sont venus pour m'épauler dans le ministère d'implantation de l'Église en France, pas seulement Thionville, mais d'autres villes. Et l'un d'entre eux, un jour, débarque et voit notre petite salle de culte qui était aussi grande que ça, pas plus. Il regarde, et puis il fait « Où est votre piano ?» Et je dis « On n'a pas de piano, on joue de l'orgue. » On avait un petit orgue. Il dit « Mais comment vous faites le dimanche ? Vous n'avez pas de piano ?» Je dis « Non, on joue de l'orgue. » Il dit « Mais vous ne pouvez pas avoir un culte sans piano ?» Et je dis « Depuis quand ?» Tu me montres un passage des psaumes, là, où il jouait du piano. On mettra un piano. Culturel. Et beaucoup de choses culturelles sont transmises ainsi. Hein, il faut respecter la sensibilité des gens et leur manière de faire. Donc, les nouveaux convertis ont besoin d'être formés pour faire le ministère dans leur propre terreau, là. Il ne faut pas qu'ils deviennent de petits étrangers évangéliques. Hein, ils sont évangéliques, ils sont devenus pro ceci, pro cela. Non ! La seule chose dont nous devons nous soucier, c'est d'être pro-Christ. Pro-Christ ! Si on cherche à amener une autre culture que celle qui est dans le pays, on est en train de fausser la mission que Christ nous a donnée. Alors, la démarche autochtone ne viole en rien l'universalité de l'Évangile. Personne ne doit exercer de... Quel est le mot que je vais utiliser là? D'apanage, c'est peut-être pas le mot qui convient. Personne ne doit exercer de contrôle sur l'Église de Jésus-Christ. Les églises locales sont l'expression, l'Église locale Vernon, Rouen et ailleurs, là, sont l'expression visible et microcosmique. Le petit microcosme, le petit monde, le petit univers, ok? Le seul mot qui venait à mon esprit, c'était microscopique, et c'est pas ce que je voulais dire. J'espère que vos églises ne sont pas microscopiques. Mais ce sont des petits microcosmes du grand macrocosme que constitue le corps de Christ. Et Jésus est en train de régner son église. Un jour, vous allez vous rendre compte qu'il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui se sont tournés vers Christ, qui l'ont reconnu comme sauveur, et ils seront là dans l'adoration et dans la louange du Seigneur, dans la félicité éternelle, des gens de toute race, de toute langue, de tout pays, qui seront réunis au pied du Seigneur pour le remercier de ce qu'il a fait. Et le Seigneur est en train de réunir son Église afin qu'elle paraisse devant le Seigneur, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, ce ne sont pas, quand on regarde le Nouveau Testament, et les Actes des Apôtres en particulier, ce ne sont pas des églises juives qui se sont développées en Asie mineure. Ils n'ont pas essayé d'établir des espèces de synagogues améliorées. Ils ont établi des églises locales, à la région, au pays. On parlera plus tard des églises de Judée, on parlera plus tard des églises de Galatie, on parlera plus tard des églises de Macédoine. Mais ce n'étaient pas des églises juives qu'ils étaient en train d'implanter. En fait, à Rome et ailleurs, il y avait beaucoup plus de non-juifs que de juifs qui constituaient l'église locale. Donc ce ne sont pas davantage des églises européennes ou des églises occidentales que l'on voit implantées en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Ce sont des églises qui correspondent à ce pays. La semence évangélique, et c'est ça qui est extraordinaire, la semence évangélique peut et doit prendre racine et se développer naturellement dans n'importe quelle région du monde, dans n'importe quel pays du monde. À partir du moment où on ne lui donne aucune coloration occidentale très souvent, à partir du moment où on ne surimpose rien sur l'évangile, eh bien, la semence évangélique suscite des églises qui honorent Jésus-Christ. Ils ne sont pas vêtus de la même manière. Ils n'en font pas toujours de la même manière. Ils n'auront pas toujours le même déroulement du culte. Les choses seront différentes. Elles seront adaptées à cette culture précise dans laquelle l'Église est venue s'inscrire. En tous les cas, si l'Église prend une coloration occidentale en Europe ou en Amérique du Nord, c'est naturel. Ok ? C'est ainsi que ça doit être. On ne peut pas avoir une Église esquimau ici en France. Je crois que beaucoup de gens diraient, mais c'est rien ici, c'est étrange. Ils ont des mœurs bizarres, ils se poussent le nez pour s'embrasser. Comprenez pas. Donc, il est important que nous permettions à l'Église locale de s'implanter et de se développer en intégrant les particularismes de cette région, s'ils ne sont pas contraires aux Écritures, évidemment, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, ça. Et je crois que c'est ce que dit l'apôtre Paul en partie dans la première épître aux Corinthiens. Regardez dans votre Bible, au chapitre 9, première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Qu'est-ce que je dis ? Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, on est d'accord ? Et verset 19, où l'apôtre Paul dit « Par bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Ça, c'est la démarche chrétienne. Mais notez ce qu'il dit, verset 20. « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, mais je l'ai fait afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, la loi de Moïse, je me suis comporté comme si je n'avais pas la loi de Moïse, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, mais toujours afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, je me suis mis à leur niveau, afin de gagner les faibles, et je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ça, je crois que ça reflète la démarche d'un évangéliste qui va dans une région et qui se fait faible pour ne pas paraître arrogant et encyclopédiste, là, il sait tout. Il se fait faible. Évidemment, on ne transige pas sur la loi de Christ, les vertus de Christ, mais il s'adapte au pays dans lequel il va. L'un des héros de notre ami Robert, c'est Hudson Taylor. Hudson Taylor était de quelle origine ?
Angleterre.
Anglaise. Il est allé où ?
En Chine.
Et comment est-ce qu'il a vécu en
Chine ?
Comme un Chinois. Pas comme un Anglais. Oh, Pokorti. Non, il s'est comporté comme un Chinois. Il a pris les habitudes de ce pays, il s'est identifié à ce peuple. Sans intégrer les mauvais éléments de cette culture. Donc c'est très très important que l'évangéliste, le missionnaire pour certains, c'est important que cet évangéliste ne soit pas là en train d'imposer une culture qui lui appartienne, mais qu'il laisse l'Église se développer naturellement dans son propre terreau. Personne ne possède de supériorité spirituelle sur qui que ce soit. Pas les Européens, pas les Américains, personne. Les nationaux, bon, nationaux, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que ça fait penser trop à ceux qui ont la citoyenneté, hein, la nationalité. Les indigènes et les autochtones, ces mots me gênent aussi, hein, pour ceux qui ne sont pas arrivés là lorsque j'ai commencé. Ces termes me gênent parce que la définition de ces termes est un petit peu trop limitée. Moi, je les utilise dans le sens de les gens qui habitent dans le pays, qu'ils soient originaires du Brésil ou l'Arménie ou de quelque pays que ce soit. À partir du moment où ils sont dans un pays, ils vivent dans cette culture, ils en acceptent les bases, ils sont éduqués à l'école dans ces bases. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, autochtones, nationaux, indigènes. Donc, je n'ai pas le concept restreint du dictionnaire Larousse, là. Mais il ne faut pas confondre vie spirituelle, essence spirituelle, avec des éléments qui ne relèvent que de préférences culturelles. Parfois, et ça a été catastrophique, hein, parfois, christianisme et occidentalisation se sont conjugués au détriment de la véritable spiritualité. Et les gens du pays ont regardé, ils ont dit, mais c'est une religion étrangère, avec des coutumes étrangères. Alors que c'était l'évangile universel de Jésus-Christ qui aurait dû être proclamé clairement et indubitablement sans toutes les fioritures de la culture de l'évangéliste. Donc la responsabilisation des autochtones, indigènes, nationaux constitue la méthode simple pour établir partout des églises qui vont survivre, des églises qui vont continuer, des églises qui vont bien s'intégrer, des églises dignes du Seigneur. Responsabiliser veut dire quoi? Responsabiliser veut dire rendre capable de prendre des décisions sans en référer à une quelconque autorité, en dehors de celle de Christ, évidemment. Mais c'est ça la responsabilisation. Paul et Silas, j'ai presque terminé cette première partie, Paul et Silas, Paul et Barnabas. Bon, Paul et Barnabas, c'est la première équipe. Paul et Silas, c'est la deuxième équipe. Et il y avait d'autres collègues qui se sont joints à eux pour faire de l'évangélisation, mais alors de l'évangélisation tous azimuts, hein, parce qu'ils ne se sont pas contentés d'aller dans une ville. Ils ont établi des églises locales dans plusieurs villes. Paul et Silas, membres de l'équipe d'évangélisation, se rendaient dans diverses villes sans s'y imposer indéfiniment. Et pourtant, les églises locales se sont développées, se sont perpétuées longtemps après leur départ. Nul appel n'a jamais été fait par les premiers évangélistes, la Paul et Barnabas, pour qu'une autre équipe missionnaire vienne les remplacer. Les hommes, la doctrine chrétienne, l'enseignement de la Bible, les structures étaient mises en place par la première équipe d'évangélistes. Il s'agit pour les évangélistes donc de perfectionner l'État dans un premier temps, et puis la perfection c'est quelque chose qui justement va toujours plus loin, n'est-ce pas? Les pasteurs docteurs, les pasteurs bergers docteurs qui enseignent la doctrine prennent le relais des évangélistes pour continuer ce processus. Un évangéliste ne reste pas en place dans une église locale, jusqu'à ce que tout le monde ait tout compris sur tout. Je peux vous garantir, le dimanche, à Vernon, on fait l'étude de passages ardus, et pour certains, ils sont très ardus, ces passages. Et ils resteront très ardus. Donc, si je me dis, moi, je vais rester en place jusqu'à ce qu'ils aient tout compris, je risque de rester 150 000 ans, là, à Vernon, et je ne sais pas s'ils vont amener ça. Hein. Donc, il s'agit pour les évangélistes de perfectionner les saints, de les équiper pour le ministère, de les préparer pour le ministère de l'Église, et puis d'amener des nationaux à accomplir même les ministères de la parole, les ministères d'enseignement, les ministères d'administration des rites, le baptême et le repas du Seigneur et toutes ces choses-là. Et non de se positionner comme des espèces de professionnels super éduqués inamovibles, là. C'est vrai que pour entrer dans le ministère, il faut avoir une bonne connaissance des Saintes Écritures, c'est vrai ça. Mais les évangélistes ne sont pas les dépositaires uniques de la science infuse, de la connaissance infuse. Au contraire, moi je prie et j'agis pour que des gens dans l'Église grandissent et parfois grandissent en me dépassant, parce que moi je suis trop lent. Moi je suis peut-être pas assez engagé. J'aimerais que ce soit ainsi. Le but de tout évangéliste digne de ce nom est de mettre en place des églises locales autonomes. C'est-à-dire qu'ils vont se gérer. Des églises qu'il va confier évidemment à la grâce de Dieu pour qu'elle continue de se développer, pour qu'elle continue d'accomplir les missions que Christ a données à son Église. Et puis l'évangéliste, lui, de son côté, va faire quoi? Maintenant l'œuvre est terminée ici. L'Église est implantée, elle a un pasteur, elle a des pasteurs. Je vais poursuivre mon œuvre là où j'ai déjà commencé un petit quelque chose, là. Il y a un petit noyau. On va commencer à développer une œuvre ici, une église ici. Donc, ceci revient à dire qu'on peut être évangéliste et faire les choses de manière productive, et on peut être évangéliste et faire les choses de manière contre-productive. C'est-à-dire qu'ils ne produiront pas les fruits escomptés par le Seigneur. Ils ne produiront pas, qu'ils ne généreront pas des églises qui se prennent en charge, des églises qui se responsabilisent. Et il y a beaucoup d'églises comme ça, d'églises locales. C'est marqué, église évangélique baptiste, église biblique baptiste, ou je sais pas quoi, église ce que vous voulez, et qui ne correspond pas au schéma que Jésus-Christ aurait voulu leur donner. Parce qu'il n'y a pas eu responsabilisation, parce qu'il n'y a pas eu équipement des saints en vue du ministère, parce qu'il n'y a pas eu le travail de base. Parce qu'au-delà des conversions, et c'est bien, les conversions, oui, c'est la base même de l'essor d'une église. Il faut qu'il y ait des conversions, des gens qui se viennent au Seigneur. Mais au-delà des conversions, il faut aussi assurer les objectifs ultimes, c'est-à-dire que l'église fonctionne comme une église adulte, une église qui se gère, une église qui se prend en charge, une église qui se responsabilise, qui annonce l'évangile ailleurs, qui soutient des ministères, qui envoient des jeunes se former pour le ministère. L'utilité d'un évangéliste est dramatiquement amputée lorsqu'il se croit indispensable et qu'il pense être le seul à vraiment faire les choses convenablement. Il est le seul à détenir la capacité pour diriger la totalité de l'œuvre dans ses moindres aspects. Pour qu'il y ait une œuvre autonome, autochtone, indigène, il est indispensable que trois critères précis y apparaissent. En plus, évidemment, de cette fidélité au Christ, de cette obéissance aux Écritures. Il y a trois critères qui doivent apparaître, et c'est ce que nous nous efforcerons de voir tout au long de la journée à travers les messages qui seront présentés ponctuellement. La première, c'est que l'Église soit autogérée. C'est-à-dire qu'elles se prennent en charge, qu'elles soient dirigées par les gens du pays et les autochtones. Le deuxième critère, c'est que l'Église soit autofinancée, c'est-à-dire qu'elle se soutienne elle-même, qu'elle pourvoie à ses propres besoins, qu'elle pourvoie aux besoins de ses missions. Elle devient indépendante financièrement, elle n'est pas toujours là en train de tendre le bras, de faire la quête chez les autres pour survivre. La troisième chose, c'est que l'Église soit reproductive ou auto-perpétuée, elle continue de se reproduire ailleurs, elle établit des autres églises locales, de Rouen on va vers les villes avoisinantes, de Vernon on va vers les villes avoisinantes, de Thionville on va vers les villes avoisinantes pour y établir des églises. Et l'avenir du christianisme en France tient au respect, au simple respect, du plan divin. pour la fonction de l'évangélisation.
Sinon, on peut continuer encore 200 ans avec les missionnaires américains et les missionnaires venus d'ailleurs. Parce qu'il y a des missionnaires suisses et des missionnaires qui viennent d'autres pays. Mais la France a toujours été considérée comme un pays complètement dépendant, incapable de se développer spirituellement. Mais je ne sais pas si la faute est toujours aux Français. Je crois que parfois, il y a un problème au niveau de l'implantation même de ces églises, où les principes d'établissement d'églises autochtones indigènes n'est pas bien réalisé, n'est pas bien accompli. Okay.